Un adolescent, livre 1, chapitre 6. 1. Mes espoirs ne se réalisèrent pas tout à fait. Versilov était absent, mais il y avait au logis Tatiana Pavlovna, circonstance funeste à mes bonnes résolutions. Ma venue interrompit, entre elle et ma mère, une conversation qui paraissait fort animée. Ma sœur, qui venait de rentrer de son travail, était encore dans sa chambre. L'appartement était composé de 3 pièces. Celle dans laquelle ordinairement on se tenait, le salon, était assez grande et non sans confort. Elle était meublée de moelleux canapés rouges, fort usés. Versilov n'admettait pas les housses. De tables et de consoles. À droite, la chambre de Versilov, étroite, éclairée par une seule fenêtre. Sur un guéridon bancal, gisaient des livres quelconques et des papiers oubliés. Un fauteuil se carrait, dont le ressort faisait cruellement saillie. On dressait le lit du maître sur un divan. Versilov délaissait ce cabinet pour le salon, où il paraissait des heures et des heures. À gauche du salon, une chambrette, pareille. Ma mère et ma sœur y couchaient. Le couloir où donnaient les 3 pièces aboutissait à la cuisine. Quand la cuisinière Glycère préparait les repas, une impitoyable odeur de brûlé se répandait dans tout l'appartement. Alors, Versilov maudissait l'existence, et c'était le seul moment où je sympathisasse avec lui. Moi aussi, j'exécrais ses relents, encore qu'ils ne pussent pénétrer chez moi. J'habitais en effet sous les combles, une chambrette où donnait accès un escalier abrupt qui grinçait à chaque marche. Ce lieu se recommandait par une fenêtre cintrée, un plafond tombal, un canapé vêtu de toile cirée, où Glycère étalait pour la nuit un drap et un coussin. Nul autre meuble, sauf la plus simple des tables de bois blanc et une chaise ébouriffée. On me servait mes repas dans ce retrait. Malgré le dénuement de l'ensemble, il persistait chez nous des vestiges de luxe. Le salon, par exemple, se parait d'une lampe en porcelaine qui n'était point laide, d'une superbe gravure de la Madone de Dresde, d'une imposante photographie représentant les portes de bronze de la cathédrale de Florence, et de 2 précieuses icônes anciennes, la Toussaint et la Mère de Dieu. Au fait, on allumait la lampe suspendue devant l'iconostase, manifestation culturelle à quoi ne s'associait pas Versilov. D'habitude, j'entrais d'un air morne, sans regarder personne, et parfois sans même dire bonjour. Ce soir-là, je dis, dès la porte, « Bonjour, maman !» Mais par une sorte de pudeur, je ne pus me forcer à la regarder, et j'allai m'asseoir dans un coin. « Ce malappris persiste à entrer chez vous en manant !» siffla Tatiana Pavlovna, en qui s'invétérait l'habitude de m'interpeller sur le mode injurieux. « Bonjour !» avait répondu ma mère, effarée que je l'eusse saluée. « Le dîner est prêt depuis longtemps, pourvu que la soupe ne se soit pas trop refroidie. Quant aux côtelettes, je vais tout de suite. » Elle se levait pour courir à la cuisine. La première fois, peut-être, depuis un mois, j'eus honte de la voir se déranger pour me servir. « Je vous remercie bien, mère. J'ai déjà dîné. Si je ne vous gêne pas, je me reposerai ici. »« Hein ? Eh bien, pourquoi pas ? Restez. » »« Soyez désormais tranquille, mère. Je ne dirai plus de grossièreté à André Petrovitch. » « Peste ! Quelle magnanimité !» s'écria Tatiana Pavlovna. « Sophie chérie, est-ce que tu vas continuer à lui dire « vous » Qui est-il donc pour mériter tant de déférence, et de sa mère encore ? Regarde-toi, tu es toute confuse devant lui. Fille !»« Il me serait bien doux, mère, que vous me disiez « tu ». »« Ah ! Eh bien, oui, je dirais ainsi. » s'empressa d'acquiescer ma mère. « Moi, souvent, je ne... Eh bien, je saurai maintenant. » Elle était devenue toute rouge. Décidément, son visage était très attrayant. Il avait une expression de bonté qui n'était point de la bonasserie. Les joues étaient maigres, creuses même, le front commençait à se rider, mais la patte d'oie n'avait pas encore paru, et les yeux larges ouverts attiraient à leur calme éclat. En elle, j'aimais aussi que son visage n'eût rien de triste ni de pincé. Même il eût été gai, si trop souvent de l'inquiétude ne l'eût rembruné. Que la conversation prit un tour inhabituel, aussitôt on la voyait s'émouvoir, et elle ne se rassérénait que lorsqu'elle constatait que tout allait bien. Elle n'était pas exigeante, estimant que tout allait bien quand tout allait comme avant. Pourvu que rien ne change, pourvu que rien n'arrive de nouveau, fût-ce d'heureux. Il semblait qu'elle eût été effrayée dans son enfance. L'ovale fin de sa figure me plaisait aussi. La saillie des pommettes était peut-être un peu forte, sinon ma mère eût pu passer pour belle. Elle n'avait pas plus de 39 ans, mais des fils d'argent striaient ses cheveux châtains. Tatiana Pavlovna la regardait décidément avec indignation. « Un garnement pareil ! Et trembler de la sorte devant lui ? Tu es ridicule, Sophie ! Tu me fâches, voilà !»« Ah, Tatiana Pavlovna, pourquoi si sévère ? Mais vous plaisantez ! » ajouta-t-elle, remarquant un demi-sourire sur le visage de Tatiana Pavlovna. Et, de fait, il n'y avait pas à prendre au tragique les vituperations de Tatiana. Mais je jugeais à propos d'intervenir. Vous tombez sur les gens d'une manière un peu rude, et dans le cas actuel, sans beaucoup d'à-propos. Pour une fois que j'entre en disant « Bonjour, maman », je n'ai vraiment pas de chance. Immédiatement, elle s'emporta. « Voyez-vous cela ? Il croit ma parole avoir accompli un haut fait. « Faut-il s'agenouiller parce que tu t'es avisé de ne pas être impoli ? Et d'abord, tu aurais pu me faire la grâce de me dire bonjour à moi aussi. Sache, grand personnage, que je t'emmaillotais, je suis ta marraine. » Mais ma sœur entrait. « Lise, j'ai vu aujourd'hui Vassine, lui dis-je, et il s'est enquis de toi. Tu l'as connu ? Oui, à Louga, l'année passée. » répondit-elle simplement, s'asseyant à côté de moi et me regardant avec douceur. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais imaginé qu'elle allait rougir lorsque je lui parlerais de Vassine. De notre mère, elle avait les yeux, l'ovale du visage, mais son masque était jonché de taches de rousseur, et elle était blond clair. De Versilov, elle avait la sveltesse et quelque chose d'onduleux dans l'allure. D'ailleurs, ne lui ressemblant pas, et me ressemblant moins encore. « Je les ai vus pendant 3 mois, » ajouta Lise. « C'est de Vassine que tu dis « les » ?»« Lise, il faut dire « le » et non « les ». »« Pardonne-moi, sœur, si je te reprends, mais il m'est pénible de voir que ton éducation ait été si négligée. »« C'est une vilenie de faire cette remarque devant ta mère !» exclama Tatiana Pavlovna. « Et tu mens, on n'a pas négligé son éducation. » « Je ne parle pas de ma mère, » répliquai-je durement. « Sachez, mère, que je pense de Lise ce que je pense de vous. Vous avez fait d'elle cette merveille de bonté et de délicatesse que vous étiez vous-même assurément, que vous êtes encore, que vous serez toujours. » Je regrette seulement le manque d'un certain vernis mondain, futile, je l'accorde, mais indispensable. Versilov entendrait Lise parler de Vassine au pluriel, qu'il ne la reprendrait certainement pas, tant il est indifférent à tout ce qui nous concerne. Et voilà ce qui me met en fureur. Toi-même es un ours, et fort mal qualifié pour enseigner aux gens les belles manières. « Avisez-vous encore, monsieur, de dire « Versilov » devant votre mère ou même devant moi ?» me foudroya Tatiana Pavlovna. « Ma mère, j'ai reçu aujourd'hui 50 roubles. Prenez-les, s'il vous plaît. Les voici. » Je m'approchai d'elle et lui tendis l'argent. Tout de suite, elle s'effaroucha. « Je ne sais, Je ne sais vraiment, balbutiait-elle. Je vous en prie, mère, si toutes les deux me considéraient comme un fils et un frère. Ah, j'ai bien des torts envers toi, Arcade. Je t'aurais avoué des choses, mais j'ai si peur. Elle dit avec un sourire gracieux et timide. Je l'interrompis. À propos, savez-vous, mère, qu'aujourd'hui s'est décidée au tribunal l'affaire d'André Petrovitch avec les Sokolski? Vraiment? S'écria-t-elle en joignant les mains. Comment, aujourd'hui? Exclama Tatiana Pavlovna. Mais ce n'est pas possible! Il l'aurait dit! T'en a-t-il parlé, Sophie? Il ne m'a pas dit que ce fût pour aujourd'hui, mais toute la semaine j'ai été si inquiète. J'aurais prié pour que nous soyons débarrassés de ce souci et que tout fût comme par le passé. Quoi? Même à vous, il n'a rien dit, mère? Quel homme! Voilà bien un exemple de son dédain pour nous tous. Que vous disais-je tout à l'heure? Comment l'affaire s'est-elle terminée? Comment? Et qui t'a renseigné? S'emportait Tatiana Pavlovna. Mais parle donc! Qu'il vous renseigne lui-même, car le voici en personne, annonçai-je, entendant ses pas sonner dans le couloir, et je m'empressai de prendre place auprès de Lise. Frère, pour l'amour de Dieu, épargne maman, sois patient avec André Petrovitch, murmura ma sœur. Je le serai, répondis-je en pressant sa main dans les miennes. Elle me regarda d'un air peu rassuré. 2. Il entra, très satisfait de soi, et insoucieux de le dissimuler. D'ailleurs, depuis quelque temps déjà, il avait abjuré à notre égard toute feinte, se montrant tel qu'il était, et même sous ses aspects mauvais ou ridicules. Tatiana Pavlovna avait remarqué qu'il négligeait sa toilette, vêtu décemment, mais de vêtements qui s'élimaient. Il portait maintenant son linge 2 jours de suite. Discrétion que ce groupe de femmes fanatisées tenait pour de l'héroïsme. Il se coiffait à l'ordinaire de chapeaux mous, de couleur sombre et à bord ample. Quand, sur le seuil, il se découvrit, une touffe de ses cheveux abondants, mais qui grisonnaient, se redressa, drue. Je regardais toujours avec plaisir cette rébellion de ses cheveux quand il ôtait son chapeau. « Bonjour, vous voilà tous réunis. Même lui est de la fête. » De l'antichambre, j'ai entendu sa voix. Il me grondait à ce qu'il m'a semblé. Qu'il fît de l'esprit aimé des pans, c'était un des signes coutumiers de sa bonne humeur. Je ne répondis point naturellement. Glissaire entra avec un sac en sparterie, gonflé de raies sans achat et qu'elle posa sur la table. « Victoire !» Tatiana Pavlovna, j'ai gain de cause au tribunal, et les princes assurément ne s'aviseront pas de faire appel. L'affaire est à moi. Sur l'heure, j'ai trouvé à emprunter 1000 roubles. Sophie, laisse là ton ouvrage. Aie soin de tes yeux. Lise, tu viens de ton travail?
Oui, papa, dit-elle gracieusement.
Papa, je vous demande un peu.
Tu es fatiguée?
« Oui, je suis un peu fatiguée. »«
Ne retourne plus à ton travail, Lise. »«
Tatiana Pavlovna, je n'aime pas que les femmes travaillent, et je parle principalement des ouvrages manuels. Figurez-vous qu'un des souvenirs tenaces de ma petite enfance, c'est, autour d'une table ronde où gît une étoffe, un conclave de femmes distinguées, ciseaux en main et les yeux sur un patron de mode. » Elle discute, hoche gravement la tête, mesure, suppute et se prépare à tailler. Elle, si douce, elle qui m'aimait tant, sont devenues soudain revêches. Que je commence à jouer et incontinent on m'exile. La femme n'a pas besoin de s'adonner au noble art de la coupe pour être une grande force. Cela, du reste, tu le sais aussi, Sonia. Quelle est votre opinion, Arkad Makarovitch? Je suis sûre que vous protestez.
Point, répondis-je, et je goûte surtout votre proposition, que la femme est une grande force, Quoique je comprenne mal pourquoi vous avez rattaché cela à la question travail. Mais vous le savez vous-même, on est bien obligé de travailler lorsqu'on n'a pas d'argent.
Mais maintenant, assez de fatigue, déclara-t-il à ma mère, rayonnante, lorsqu'il s'était adressé à moi, elle avait tressailli toute.
Du moins ces temps-ci que je ne vois pas tant de travaux manuels. Accordez-moi cela, je vous en prie.
Toi, Arcade, en ta qualité d'adolescent de notre temps, tu dois être quelque peu socialiste.
Eh bien, me croiras-tu, mon ami? C'est parmi les travailleurs les plus rigoureusement astreints à la besogne que se trouvent les plus fervents amateurs de l'oisiveté.
Du repos, peut-être, et non de l'oisiveté.
De l'oisiveté, je dis bien. Le loisir complet, c'est l'idéal. J'ai connu un de ces hommes, qu'une loi de fer courbe sempiternellement sur la tâche. À la vérité, il ne sortait pas du peuple. C'était un homme assez instruit et apte à généraliser. Toute sa vie et chaque jour de sa vie, il rêva avec attendrissement au farniente absolu, à l'indépendance sans limite, à l'éternelle liberté du rêve et de la contemplation oisive. Passionnément, il y rêva, jusqu'au moment où son organisme se disloqua sous les fatigues accumulées. On voulut en vain réparer le dommage, mon homme mourut à l'hôpital. J'estime que les délices du travail sont de l'invention des oisifs. Ces oisifs, naturellement, appartiennent à la catégorie « bienfaiteurs de l'humanité ». Tout cela, c'est des idées de Genève, fin 18e. Tatiana Pavlovna, avant-hier, j'ai découpé une annonce dans un journal. La voici. Il tira de sa poche un morceau de papier. Écoutez. Une institutrice prépare à tous les examens. Vous entendez? À tout. Et donne des leçons d'arithmétique. Rien qu'une ligne, mais qui est riche de sens. Celle qui l'a écrite ne s'est manifestement jamais préparée elle-même à nul examen. Et elle serait fort en peine de préparer n'importe qui à n'importe quoi. Mais la faim lui froissait l'estomac. On sent la faim dans sa pauvre phrase. Comme elle se serait noyée, de même est-elle allée porter son dernier rouble au journal. Elle a proclamé qu'elle prépare à tous les examens. Et, luxe, qu'elle enseigne surrégoratoirement l'arithmétique. Per tutto mundo e in altri siti. Oh, André Petrovitch, il faudrait lui venir en aide. Où demeure-t-elle?
S'écria Tatiana Pavlovna.
Oh, il y en a beaucoup de cette sorte.
Il glissa l'adresse dans son gousset, puis, avisant le sac,
il y a là des choses pour toi, Lise, et pour vous, Tatiana Pavlovna.
Sophie et moi n'aimons pas les friandises.
Pour toi aussi, jeune homme.
J'ai pris tout cela moi-même chez Eliseyev et chez Ballet. Depuis trop longtemps, nous restions sans manger, comme dit Clisser. Nota bene, jamais personne chez nous ne restait sans manger.
Du raisin, des bonbons, des duchesses et une tarte aux fraises.
Même, je me suis muni d'un flacon qui promet. En outre, voici des noisettes. Il est curieux que, depuis mon enfance, mon amour pour les noisettes n'ait pas faibli, Tatiana Pavlovna.
Lise les aime aussi. Elle les casse comme un écureuil.
Souvenir délicieux.
Je me revois enfant, saccageant la coudraie. Les journées claires, encore, fraîchissent déjà, teintées d'automne. On s'enfonce dans les fourrés, ça sent les feuilles. Je vois quelque chose de sympathique dans vos yeux, Arkad Makarovitch.
Mes premières années se passèrent aussi à la campagne.
Comment cela? Tu vivais à Moscou, si je ne me trompe?
Il vivait en effet chez les Andronikov à Moscou lorsque vous êtes allé le voir, mais auparavant il avait habité à la campagne, chez votre feu tante, Barbe Stéphanovna, s'empressa de spécifier Tatiana Pavlovna.
Sophie, voici l'argent, mets-le de côté. L'on m'a promis 5 000 roubles pour un de ces jours. Alors, nul espoir ne reste au prince ? Demanda Tatiana Pavlovna.
Nul.
Ma sympathie a toujours été vers vous, Andrei Petrovitch, et vers les vôtres. De longue date, je suis une amie de la maison. Pourtant, les princes ont beau m'être étrangers, je les plains. Ne vous fâchez pas, Andrei Petrovitch.
Tatiana Pavlovna, je ne me propose pas de faire de partage.
Vous savez ma pensée, Andrei Petrovitch. Il se serait désisté si, au début, vous aviez proposé le partage. Il serait bien tard, maintenant, pour faire une telle proposition. Du reste, je ne me permets pas de juger. Je dis cela parce que je suis sûre que le défunt ne les aurait pas oubliés dans son testament.
Non seulement il ne les aurait pas oubliés, c'est à eux qu'il aurait laissé tout. Il n'aurait oublié que moi seule, mais il a mal pris ses dispositions. Maintenant, la loi est pour moi et c'est fini. Partager, je ne le peux pas, ni ne le veux. Tatiana Pavlovna, il suffit.
Il parlait avec une nervosité qui lui était fort inhabituelle. Tatiana Pavlovna se tut. Ma mère baissa des yeux tristes. Versilov savait qu'elle s'associait à l'opinion de Tatiana Pavlovna. « C'est la gifle d'Ems, » pensais-je. Et je pensais aussi au sort cruel qu'aurait le document de Kraft si, au lieu d'être dans ma poche, il était entre les mains de Versilov. Mes susceptibilités s'éveillaient hargneusement. « Arkad, je voudrais te voir en meilleur équipage, mon ami. Tu n'es pas mal mis, mais, en raison de nos nouvelles conditions d'existence, tu permettras peut-être que je te recommande certains tailleurs français, habile homme et qui a du goût.
Je vous prierai de ne jamais me faire de proposition de cet ordre, m'emportai-je subitement.
Et pourquoi ?
Non, qu'en soi, elles aient rien de scandaleux. Seulement, nous ne sommes pas bien d'accord. Nous sommes même nettement en désaccord. Et un de ces jours, demain, je cesse d'aller chez le prince, n'y voyant rien à faire.
Mais ne ferais-tu que l'accompagner à la promenade ou rester assis auprès de lui, ce serait encore
un service humiliant.
Je ne comprends pas. Au surplus, si tu es si sourcilleux, n'accepte pas d'argent, mais continue à te rendre chez lui. Ta défection lui serait douloureuse. Il s'est habitué à toi, sois-en sûr.
De toute évidence, l'idée que je cessasse d'aller chez le prince était désagréable à Versilov.
Me conseiller de ne pas accepter son argent est bel et bon. Malheureusement, et par votre faute, j'ai commis aujourd'hui un impair. Comme vous aviez négligé de me mettre au courant de la situation, j'ai réclamé mon salaire du mois échu.
Déjà ? Quel homme d'affaires ! Ma parole, il n'y a plus de jeunesse, Tatiana Pavlovna.
Il y avait de la colère dans son persiflage. Moi aussi, je m'irritais.
À propos, Sophie, veuille rendre immédiatement à Arkad ses 60 roubles. Toi, mon ami, ne te fâche pas d'une restitution si prompte. À ton visage, je devine que tu as en tête quelques grands desseins et que tu as besoin d'un capital ou de quelque chose de ce genre.
Je ne sais ce que peut bien exprimer mon visage, mais je m'étonne que maman vous ait parlé de cet argent. Je l'avais tant prié de ne vous en rien dire.
Je regardais ma mère avec des yeux étincelants. Arkacha, mon petit, pardonne-moi au nom de Dieu. Je ne pouvais pas me taire.
Mon ami, ne lui en garde pas rancune. Si elle m'a dévoilé tes secrets, c'était dans une louable intention. Ta mère voulait mettre en relief les beaux sentiments du fils. Mais crois-moi, j'aurais quand même deviné en toi un capitaliste. Tes secrets s'inscrivent sur ton honnête visage.
Il a son idée, Tatiana Pavlovna, je vous le disais.
Laissons mon honnête visage. Je sais que vous êtes perspicace. Néanmoins, il vous arrive de ne pas voir plus loin que le bout de votre nez.
Eh bien, oui, j'ai mon idée. C'est par hasard que vous vous êtes exprimé ainsi.
Mais soit, j'ai une idée. Je n'ai nulle honte à en convenir.
Surtout, n'aie pas honte.
Tout de même, je ne vous la dirai jamais.
C'est-à-dire que tu ne daigneras pas me la dire.
Il ne faut pas être dédaigneux, mon ami.
D'ailleurs, ta confidence serait inutile. Ton idée ne m'est pas inconnue. Et c'est...
Je me retire au désert.
Tatiana Pavlovna, son idée, c'est de devenir Rothschild, ou quelque chose dans ce goût-là, et de se réfugier en sa grandeur.
Il est certain qu'il nous servira généreusement une pension.
Moi, peut-être excepté.
En tout cas, nous ne le verrons plus. Il est comme la nouvelle lune, à peine apparu, disparu.
Je tressaillis. Certes, c'était par hasard qu'il avait prononcé le nom de Rothschild, mais comment avait-il pu discerner que mon dessein fût de rompre avec eux et de m'éloigner? Il a eu la prescience de mes sentiments et a voulu les salir de son cynisme.
Mère, excusez mon emportement de tout à l'heure. Andrei Petrovitch a manifestement le don de divination.
Nous n'y pouvons rien,
fis-je en m'efforçant à rire.
Ce qui me plaît, mon cher, c'est que tu aies ri. On ne sait pas assez combien un beau rire donne de charme à quelqu'un, même physiquement.
À l'ordinaire, Tatiana Pavlovna, il roule dans sa tête des pensées tellement graves qu'il en est comme ahuri.
Je vous prierai sérieusement d'être plus réservé, Andrei Petrovitch.
Tu as raison, mon ami, mais il faut tout de même se confesser une fois pour toutes pour n'y plus revenir. Tu es arrivé de Moscou chez nous dans un esprit de révolte. Voilà tout ce que nous savons jusqu'ici de tes dispositions générales. Que tu sois venu avec l'intention de nous étonner par quelques coups d'éclat, je n'en parle même pas. C'est trop naturel. Depuis un mois que tu es ici, tu grommelles. Pourtant, tu es un garçon raisonnable, et comme tel, tu aurais pu laisser cette manière de récrimination aux malheureux qui veulent se donner le change sur leur nullité. Tu dissimules toujours ton visage, mais tu as l'air honnête et les joues roses de quelqu'un qui peut regarder en face tout le monde avec une entière innocence.
Il est hypochondriaque, Tatiana Pavlovna.
Pourquoi diable sont-ils tous maintenant hypochondriaques?
Vous qui ne savez même pas où j'ai grandi.
Comment seriez-vous si je n'ai pas des raisons d'être hypochondriaque?
Voilà le point terrible. Tu t'es offensé de ce que j'ai pu oublier où tu as grandi.
Du tout. Ne me faites pas dire de sottises.
Maman, Andrei Petrovitch m'a félicité tout à l'heure de mon rire.
Rions donc. Voulez-vous que je vous narre des anecdotes personnelles?
Justement, Andrei Petrovitch ne sait rien de mes aventures.
Tout bouillonnait en moi. Je savais que jamais plus nous ne serions réunis comme maintenant, et que, sorti de cette maison, je n'y rentrerais jamais. Aussi, à la veille de la rupture, avais-je des démangeaisons de parler. Lui-même m'y provoqua.
« Un tel projet est pour séduire. Puisses-tu ne pas être ennuyeux? Tu t'es quelque peu trivialisé, mon ami, là où tu as grandi. »
Néanmoins, tu es fort présentable.
Oui, ma foi, il est très gentil, Tatiana Pavlovna, et je vous loue d'avoir enfin ouvert ce sac.
Mais Tatiana Pavlovna fronçait les sourcils. Elle ne se retourna même pas à ces paroles et se mit à disposer le contenu du sac sur des assiettes. Ma mère restait toute soucieuse et ma sœur me poussa encore une fois du coude.
3. Je veux tout simplement vous raconter à tous, commençai-je d'un ton dégagé, la première rencontre d'un père avec son fils. Cela se passait justement là où tu as grandi.
Mon ami, mais cela ne sera-t-il pas ennuyeux? Tu sais, tous les genres...
Ne froncez pas le sourcil, Andrei Petrovitch. Vous vous méprenez. Je me propose d'égayer tout le monde.
Que Dieu t'entende, mon chéri. Je sais que tu nous aimes tous et tu te ferais scrupule de gâter notre soirée,
murmura-t-il d'un air de nonchalance et de feinte.
Encore maintenant, vous avez deviné sur ma figure que je vous aime ?
Oui, un peu sur ta figure.
Quant à moi, depuis longtemps, j'ai deviné sur la figure de Tatiana Pavlovna qu'elle est amoureuse de moi.
Ne me faites pas cette mine rébarbative, Tatiana Pavlovna. Il vaut mieux rire. Soyons gais.
Elle se retourna vivement et, une demi-minute, tint ses yeux fixés sur moi.
« Prends garde !»
Et elle me menaçait du doigt, mais si sérieusement que cela ne pouvait nullement se rapporter à ma stupide plaisanterie. Il semblait qu'elle voulût plutôt m'objurguer de veiller sur ce que j'allais dire.
« André Petrovitch, est-ce que vraiment vous ne vous souvenez pas de notre première rencontre ?»«
Je te jure que je l'ai oublié, mon ami, et je le regrette de tout mon cœur. Je me souviens qu'il y a très longtemps de cela, et que cela se passait quelque part.
Et vous, mère, vous rappelez-vous les circonstances de la visite que vous m'avez faite à la campagne ?
Je suis restée à la campagne jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans.
Mais d'abord, êtes-vous en effet venue me voir à la campagne, ou bien est-ce en rêve que je vous ai vue ?
Oui, Arkatchenka, je suis allée 3 fois chez Barbe Stéphanovna. La première fois, tu n'avais qu'un an. La seconde, tu étais dans ta 4e année. La dernière fois, tu avais 6 ans.
Voilà ce que je voulais savoir de vous depuis 1 mois.
Ma mère était devenue pourpre. Elle me demanda avec émotion.
Vraiment, Arkatchenka, tu as gardé après si longtemps le souvenir des visites de ta mère?
Je ne me souviens de rien et je ne sais rien. Pourtant, quelque chose de votre figure est resté dans mon cœur, pour toute la vie, et aussi m'est restée la conscience que vous êtes ma mère. Je ne revois ce village que dans une brume de rêve. J'ai oublié même ma bonne. Je me souviens un peu de cette Barbe Stéphanovna, parce qu'elle avait toujours la mâchoire en écharpe, un mal de dents. Je me rappelle encore les grands arbres qui entouraient la maison. Je crois que c'était des tilleuls. Une plate-bande avec des fleurs, un sentier. Et de vous, maman, je me rappelle nettement que le jour où je communiais dans l'église de ce village, vous m'avez soulevée pour me faire baiser le calice. Cela se passait en été, et une colombe traversa le dôme de l'église, de fenêtre en fenêtre.
Mon Dieu, tout s'est passé exactement ainsi, dit ma mère en frappant des mains. Et devant le Saint-Sacrement, tu as trépigné et tu as crié « Une colombe ! Une colombe !»
Votre visage, ou quelque chose de lui, son expression, se grava si net dans ma mémoire que 5 ans plus tard, à Moscou, je vous ai reconnu tout de suite, quoique personne ne me dit que vous étiez ma mère. Et quand je me suis rencontrée pour la première fois avec André Petrovitch, on m'avait retiré de chez les Andronikov, où je venais de passer 5 ans. Leur appartement, je m'en rappelle les moindres détails. Je me rappelle toutes ces dames et toutes ces demoiselles, qui depuis ont si fort vieilli, et Andronikov lui-même, qui ravitaillait la maison de volailles, de poissons, de victuailles de toutes sortes, et qui, à table, se substituant à sa femme, laquelle faisait des manières, nous servait lui-même la soupe et déchaînait la gaieté. Ces dames m'apprenaient le français. Tous les jours, je disais à Andronikov une fable de Krylov. J'en avais appris par cœur une quantité. Et c'est à la faveur d'une fable que j'ai fait votre connaissance, André Petrovitch. Je vois que vous commencez à vous ressouvenir.
Je me ressouviens, vaguement, que tu m'as en effet récité quelque chose, une fable, ou le malheur d'avoir trop d'esprit, il me semble.
Mais quelle mémoire!
Oh, je n'ai pas grand mérite à me rappeler ces choses. Elles ont toujours été présentes à ma pensée.
Bien, bien, mon cher.
Il daigna sourire, et aussitôt se mirent à sourire et ma mère et ma sœur. La confiance renaissait. Toutefois,
Tatiana Pavlovna, assise dans un coin, continuait de me couver d'un regard sévère. « Un beau matin, continuai-je, Tatiana Pavlovna, qui apparaissait toujours dans ma vie de manière imprévue et comme scénique, vint me chercher en voiture et l'on me conduisit dans une maison seigneuriale, celle de Madame Fanariotov. C'est là aussi, André Petrovitch, que vous étiez descendu. Jusqu'alors, j'avais porté des blouses. Subitement, on m'inséra dans du linge de luxe et dans un vêtement à la mode. Le lendemain matin, comme j'explorais les chambres vides, m'arrêtant seulement pour me mirer dans les glaces, le hasard fit que je poussai la porte de votre cabinet. Je vous vois comme si c'était aujourd'hui, florissant et beau. C'est étonnant comme vous avez vieilli et enlaidi au cours de ces 9 ans. Pardon de ma franchise. Du reste, vous aviez déjà près de 37 ans. Mais je ne me lassais pas de vous contempler. Quelle chevelure opulente, noire, luisante, sans un fil blanc. Les moustaches et les favoris astiqués. Je ne saurais mieux dire, à la perfection. Le visage d'une pâleur mate, non pas d'une pâleur maladive, comme maintenant, mais de cette pâleur qui séduit chez votre fille Anna Andreïevna, que j'ai eu l'honneur de voir aujourd'hui même. Des yeux brûlants et sombres, et des dents qui étincelaient dans votre sourire. Et justement, vous aviez souri à mon entrée. Vous portiez un veston de velours, un foulard couleur solferino, une chemise de point d'Alençon. Debout devant la glace, un cahier à la main, vous étudiez le dernier monologue de Tchatsky et spécialement l'exclamation « Une voiture pour moi, une voiture !» Mais c'est, ma foi, vrai. Malgré le peu de temps que je devais passer à Moscou où m'avait appelé la maladie de Gileïko, Alexandra Petrovna Witov m'avait décidé à jouer le rôle principal dans la pièce de Griboïedov. « Eh quoi, aviez-vous donc oublié ?» exclama Tatiana Pavlovna, rieuse. Il me l'a rappelé. Au fait, ce bref séjour à Moscou fut peut-être le meilleur moment de ma vie. Nous étions encore si jeunes alors, tous. Mais continue, mon cher. « Oh, que c'est donc bien » m'écriai-je. « Un vrai Tchatsky !» Vous vous êtes retourné et m'avez demandé « Mais est-ce que tu connais déjà Tchatsky ?» Vous vous êtes assis sur le divan et vous avez commencé à prendre votre café. Vous étiez dans les dispositions les plus affables. J'avais envie de vous embrasser. Je vous ai fait savoir qu'on lisait beaucoup chez les Andronikov, que les jeunes filles de la maison savaient beaucoup de vers par cœur, que l'on jouait en petit comité des scènes du malheur d'avoir trop d'esprit, que tous les soirs de la semaine précédente, on avait lu à haute voix les récits d'un chasseur, mais que j'aimais par-dessus tout les fables de Krylov, et en savais par cœur plus d'une. Alors, sur votre requête, je vous ai récité « La fiancée difficile ».
Mais oui, maintenant je me rappelle tout. Eh oui, mon ami, je te revois distinctement, moi aussi. Tu étais un garçonnet très, très gentil. Et je te jure que tu as perdu aussi en ces 9 années dernières.
Tout le monde se mit à rire, même Tatiana Pavlovna. Il était clair qu'André Petrovitch plaisantait et prenait sa revanche. Tandis que je récitais, vous continuiez à sourire, mais je n'étais pas encore au milieu de ma fable que vous sonniez et ordonniez au domestique d'appeler Tatiana Pavlovna. Elle a couru incontinent. En sa présence, je recommençais la fiancée difficile et je la terminais avec un grand succès. Tatiana Pavlovna sourit et vous, André Petrovitch, vous vous êtes écrié « Bravo !» et avez ajouté que bien récité, la cigale et la fourmi étaient à la portée de tout garçon intelligent de mon âge. Mais la fiancée difficile... Manifestement, vous étiez ravi. Tout à coup, vous avez interpellé Tatiana Pavlovna en français. Elle fit la grimace, vous riposta, s'échauffa, Mais comme il est impossible de contredire André Petrovitch quand il veut quelque chose, Tatiana Pavlovna finit par m'emmener dans son appartement. Là, je fus débarbouillée de rechef, je changeai de linge, on me pommada, on me calamistra. Le soir, Tatiana Pavlovna me surprit par la somptuosité inhabituelle de sa toilette. Elle me fit monter en voiture. Me voici au théâtre, pour la première fois de ma vie. Théâtre d'amateurs, chez Witoft. Bougies, lustres, dames, militaires, généraux, demoiselles, rideaux, rangées de fauteuils. Tatiana Pavlovna prit modestement place dans les derniers rangs, me fit asseoir à côté d'elle. J'attendais avec angoisse le commencement de la représentation. « Quand vous parûtes en scène, André Petrovitch, je fus ému jusqu'aux larmes. Pourquoi ? J'écoutais la pièce presque défaillant. Je comprenais qu'elle l'avait trahi, que des gens qui ne valaient pas son orteil se moquaient de lui. Quand il déclamait au bal, je comprenais qu'il était humilié et insulté, qu'il faisait des reproches à tout ce misérable monde. » Mais que lui, il était grand, grand. Évidemment, mon apprentissage chez les Andronikov m'aidait beaucoup à comprendre. Mais votre jeu, André Petrovitch, je voyais pour la première fois la scène. Lorsque Tsatsuki cria « Une voiture pour moi, une voiture !» Et vous l'avez crié étonnamment bien. Je sautai de ma chaise. Et à l'unisson de toute la salle qui applaudissait, j'applaudis, je criais « Bravo !» Je me souviens qu'à ce même moment, j'ai senti comme un coup d'épingle un peu plus bas que le dos. C'était Tatiana Pavlovna qui, furieuse, me pinçait, à quoi je ne fis pas grande attention. Après la représentation du malheur d'avoir trop d'esprit, Tatiana Pavlovna m'emmena à la maison. « Tu ne peux pas rester pour le bal, et à cause de toi, je ne reste pas non plus. »« M'avez-vous sifflé comme un serpent, Tatiana Pavlovna, durant tout le trajet ?» Le lendemain, à 10 heures, je me tenais devant le cabinet, lequel était fermé. Il y avait du monde chez vous, et vous étiez occupé. Puis vous êtes sorti pour toute la journée, et sans que je vous ai revu, vous êtes rentré dans la nuit. Ce que je voulais vous dire... Je l'ai oublié, et sans doute ne le savais-je pas alors, mais je voulais vous voir, à toute force. Or, le lendemain matin, dès 8 heures, vous étiez parti. Vous aviez vendu tout récemment votre propriété de Toula pour payer vos créanciers, ou du moins les désintéresser en partie. Mais il restait encore une jolie somme entre vos mains, et c'est pourquoi vous étiez venu à Moscou, où vous n'osiez vous montrer auparavant. De crainte des créanciers. À mes questions, Tatiana Pavlovna répondait par des « Tais-toi, après-demain tu entres en pension, prépare-toi, mets en ordre tes cahiers et tes livres et habitue-toi à ranger tes effets toi-même. Vous n'avez pas à prendre des manières de grand seigneur, monsieur. » Et sans autre recommandation que vous me tambourinâtes pendant ces 3 jours, Tatiana Pavlovna. Après quoi, j'entrai chez Touchard. Notre rencontre n'était qu'un épisode insignifiant, je l'accorde, André Petrovitch. Mais croirez-vous que 6 mois après, je voulais m'enfuir de chez Touchard pour me réfugier auprès de vous. Tu as raconté ces choses dans la perfection, et je me ressouviens nettement de tout, scanda Versilov. Mais principalement, je suis frappé par la richesse de certains détails de ton récit. Ce qui concerne mes dettes, par exemple. Je n'insiste pas sur l'inconvenance de ces détails. Mais comment diable as-tu pu te les procurer ? Les détails ? Comment je me les suis procurés ? Mais je vous répète que pendant ces 9 ans, je ne fis que chercher des détails sur vous. Étrange aveu et singulière distraction. À demi couché dans le fauteuil, il bâilla légèrement. « Eh bien, raconterai-je maintenant mon projet de fuite ?»« Défendez-le lui et chassez-le, André Petrovitch !» prononça Tatiana Pavlovna furieuse. « Non, Tatiana Pavlovna, » lui répondit Versilov avec sérieux. « Il est manifeste qu'Arkad a une idée, Il sied donc qu'on le laisse finir, qu'il parle. Il racontera et se sentira plus léger. Le principal pour lui est qu'il s'allège. Commence, mon cher, ta nouvelle histoire. Ne t'inquiète pas, j'en connais la fin.
4. Voici. Vous souvenez-vous, Tatiana Pavlovna, que 2 semaines après mon internement, Touchard vous écrivit une lettre, non ? Mais depuis, Maria Ivanovna m'a montré cette lettre. Elle se trouvait aussi parmi les papiers de feu Andronikov. Touchard, s'avisant qu'il n'avait pas exigé assez pour prix de ma pension, vous notifiez avec dignité que dans son établissement il y avait des enfants de princes et de sénateurs et que dès lors il ne pouvait y garder sans surcroît de prix un élève de basse extraction.
Mon cher, tu aurais pu...
Ne faites pas attention, interrompis-je, je n'ai que quelques mots à dire de Touchard. Vous repoussâtes carrément ses prétentions. Je le revois entrant dans notre classe, rouge comme une écrevisse. C'était un Français très petit et très fort, de 45 ans environ, un Parisien authentique, un cordonnier naturellement, mais qui occupait à Moscou depuis des temps le rôle officiel de maître de français, et qui avait même des grades dont il s'enorgueillissait à l'extrême. Un homme imperturbablement ignare. Comme élève, nous n'étions chez lui que 6, dont l'un, neveu de sénateur, et nous vivions là en famille sous la surveillance de sa femme, une dame fort grimacière, fille d'un fonctionnaire russe. Pendant les 2 premières semaines, j'avais pâonné devant mes camarades, fier de mon veston bleu et de mon papa André Petrovitch, et s'il me demandait pourquoi je m'appelais Dolgorouki et non Versilov, je ne me déconcertais pas, l'ignorant non moins qu'eux. « André Petrovitch !» s'écria Tatiana Pavlovna, d'une voix presque menaçante. Ma mère, au contraire, suivait mon récit avec intérêt. Évidemment, elle désirait que je continuasse. « Ce Touchard !» En effet, je me rappelle maintenant qu'il était petit et remuant, prononça du bout des lèvres Versilov, mais on me l'avait recommandé chaleureusement. Ce Touchard entra, la lettre à la main, s'approcha de la table en chêne autour de laquelle tous 6 étudions quelque chose, m'empoigna à l'épaule, me souleva de la chaise et m'ordonna de prendre mes cahiers. « Ta place n'est point ici, mais là !» dit-il en me montrant à gauche de l'antichambre une pièce meublée d'une table, d'une chaise canée et d'un canapé en toile cirée. Bref, le mobilier actuel de ma chambrette, là-haut. J'y entrai avec étonnement et très apeuré. Jamais encore je n'avais été traité de la sorte. Une demi-heure après, quand Touchard fut sorti de la classe, je rejoignis mes camarades et me mis à rire avec eux. Certes, ils se moquaient de moi, mais je ne m'en doutais pas. Je croyais que nous rions parce que nous étions gais. Sur ces entrefaites, accourut Touchard, lequel me saisit par les cheveux et me traîna dehors. « Comment tu oses rester en la compagnie d'enfants nobles, toi qui n'as pas plus de naissance qu'un laquais ?» Et il me donna un soufflet, y prit plaisir, m'en donna un second, m'en donna un troisième. Je passai 1 heure entière, assis, la figure dans mes mains, à pleurer et à pleurer. Je ne comprenais pas comment un homme qui n'était pas méchant, un Touchard, un étranger et qui avait applaudi à la libération des paysans russes, pouvait battre l'enfant innocent que j'étais. Du reste, j'étais surtout étonné, je ne me sentais pas insulté. J'avais dû soumettre quelques polissonneries, on me pardonnerait bientôt. Nous allions redevenir tous bien gais. De nouveau, nous jouerions dans la cour et nous continuerions à vivre le mieux du monde. « Mon ami, si je l'avais su seulement, » prononça lentement Versilov avec un sourire là. « Tout de même, quelle canaille, ce Touchard ! Du reste, je ne perds pas encore tout espoir de te voir un jour trouver la force de nous pardonner tout cela. » Alors nous continuerons, en effet, à vivre le mieux du monde.
Il bâilla franchement.
« Mais je ne récrimine point du tout !» m'écriai-je un peu dérouté. « D'ailleurs, il ne me battit guère que pendant 2 mois. Je me souviens que je voulus le désarmer par quelques manifestations. Je me précipitai pour lui baiser les mains, je les lui baisais, et je pleurais toujours. » À la suite de cet incident, Touchard m'employa de temps en temps comme domestique. Là, mes qualités, faut-il dire instinctives, de domestique s'exaltèrent. Je m'évertuais à le contenter, et cela ne me paraissait nullement humiliant. Simplement, je m'étonne d'avoir été jusqu'alors assez niais pour ne pas comprendre que je n'étais pas l'égal de mes condisciples. Au lieu de me frapper à la figure, Touchard se contentait maintenant de me bourrer du genou, et au bout de 6 mois, il lui arrivait de me donner des pichenettes amicales. Une fois par mois, il me gratifiait pourtant, sans quoi j'aurais pu m'oublier, de quelques fortes taloches. De nouveau, je vivais en communauté avec les autres enfants. Mais pas une seule fois, au cours de ces 2 ans et demi, Touchard ne me laissa perdre de vue la différence des situations sociales. Et pour rarement que ce fût, il continuait à m'employer au service. J'ai fui. Plus exactement, j'ai voulu fuir, 6 ou 7 mois après la première algarade. Du reste, j'ai toujours eu la décision difficile. Le soir, dès que j'étais sous la couverture, je commençais à penser passionnément à vous, André Petrovitch, à vous seul. Je vous voyais même dans mes songes. Notamment, je rêvais que vous entriez soudain. Je m'élançais vers vous, vous m'emmeniez, je me retrouvais dans votre cabinet, nous partions pour le théâtre, et ainsi de suite. Nous ne nous séparions plus. Et c'était pour moi l'essentiel. Au réveil, je redevenais le souffre-douleur de mes camarades. Il y en avait un qui me battait et me forçait à le servir. Il me cinglait des noms les plus fâcheux, et sa verve s'attaquait de prédilection à mon origine, pour la plus grande joie des auditeurs. Mais lorsqu'apparaissait Touchard en personne, il se passait dans mon âme quelque chose d'insupportable. Je sentais qu'on ne me pardonnerait jamais. Oh, je commençais peu à peu à comprendre le fait que l'on ne me pardonnerait pas, et en quoi précisément consistait ma faute. 2 mois, je roulais dans ma tête des projets d'évasion. Enfin, en septembre, je me décidai. Un samedi serait propice. Ce jour-là, mes camarades partaient en congé jusqu'au lundi. Je n'avais qu'à attendre que la maison fût vide. Cependant, j'avais fait un paquet des objets les plus indispensables et recensé ma fortune. 2 roubles. À la tombée de la nuit, pensais-je, je descendrai l'escalier, sortirai, irai. Quel ennui qu'Andronikov soit déjà parti pour Pétersbourg. Le matin venu, je demanderai à quelques passants où se trouve actuellement André Petrovitch. S'il n'est pas à Moscou, je m'informerai de la ville, du pays, où j'aurai la chance de le retrouver. Certainement, on me renseignera. Je me mettrai en route. De loin en loin, j'interrogerai quelqu'un sur mon itinéraire, et je marcherai, marcherai, je marcherai toujours. Je dormirai dans des broussailles, je ne mangerai que du pain, et mes 2 roubles dureront longtemps. Mais ce samedi-là, les circonstances furent défavorables, et je dus remettre ma tentative au lendemain. Par fortune, Touchard et sa femme s'absentèrent pour toute la journée. Dans la maison entière, il n'y avait qu'Agathe et moi. J'attendis anxieusement la nuit. Assis près de la fenêtre, dans la salle d'études, je regardais la rue poussiéreuse, ses maisonnettes en bois, les rares passants égarés en ce lointain faubourg. Le soleil se coucha tout rouge, l'air était glacial et un vent aigre soulevait la poussière, exactement comme aujourd'hui. Enfin, la nuit venue, je fis devant l'icône une prière rapide, pris mon paquet et sur la pointe des pieds descendis l'escalier, avec une peur terrible qu'Agathe, de la cuisine, n'entendit crier les marches. Précautionneusement, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris la porte, la nuit m'apparut, opaque, dangereuse,
et le vent emporta ma casquette. J'étais déjà dehors. Le grognement d'un ivrogne me fit sursauter. Je regardai autour de moi. Tout était noir. Je regagnai la porte. Tout doucement, je montai les escaliers. Je dissimulai mon paquet, me déshabillai en tapinois, me glissai dans mon lit, la face dans l'oreiller, sans larmes. Et c'est de ce moment que j'ai commencé à réfléchir, Andrei Petrovitch. C'est de ce moment que j'ai compris que tout en étant un laquais, j'étais par surcroît un poltron. Et de ce moment commença mon développement régulier.
Et c'est de ce même moment que je t'ai deviné à jamais,
glapit Tatiana Pavlovna.
Le laquais que tu fus jadis, tu l'es aujourd'hui encore. Tu as une âme de laquais. Qu'en aurait-il coûté à Andrei Petrovitch de te mettre en apprentissage chez un cordonnier? Et qu'aurais-tu pu réclamer de plus? Ton père, Makar Ivanovitch, non seulement suppliait, mais exigeait presque qu'on vous laissât dans la bassesse de vos conditions. Qu'Andrei Petrovitch ait assuré tes études, tu n'en as cure, n'est-ce pas?
Des gamins le taquinaient, voyez-vous ça.
Et alors il s'est juré de se venger de l'humanité.
Drôle, va. L'inattendu de cette sortie me déconcerta. Je me levai et un moment ne sus que dire. Enfin, avisant Versilov. Savez-vous que Tatiana Pavlovna a proféré quelque chose de vraiment judicieux? Versilov a bien voulu ne pas faire de moi un cordonnier. Quel laquais je suis de ne pas m'être tenu pour satisfait et d'avoir exigé, outre les munificences de Versilov, Versilov lui-même est tout entier. Car j'ai exigé un père. On n'est pas plus laquais. Maman, depuis 8 ans, j'ai sur la conscience la façon dont je vous ai reçue quand vous êtes venue toute seule me voir chez Touchard. Mais il est impossible de parler de cela maintenant. Tatiana Pavlovna s'interposerait. À demain, mère. Nous nous verrons peut-être encore. Et que diriez-vous, Tatiana Pavlovna, si j'étais laquais à ce point de ne pas pouvoir admettre qu'ayant une femme, on en prenne une autre? Aventure qui a bien failli arriver à Andrei Petrovitch, à Ems. Mère, lorsqu'il ne vous plaira plus de rester avec un mari qui demain peut épouser une autre femme, souvenez-vous que vous avez en moi un fils qui vous promet de rester un fils respectueux pour toujours, et venez. Mais il vous faudra opter, lui ou moi. Qui choisissez-vous? Oh, je ne demande pas de réponse immédiate. Je sais que de telles questions valent qu'on y réfléchisse. Ma mère était livide. Elle faisait effort pour parler et ne parvenait pas à articuler un mot. Quant à Tatiana Pavlovna, elle jacassait tellement et si haut que son éloquence m'était incompréhensible. En revanche, je perçus fort bien 2 coups de poing qu'elle m'asséna sur l'épaule. Ma sœur secouait la tête tristement. Versilov se tenait immobile, il ne souriait plus. Je montai dans ma chambre.